depuis Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. Diffusion en français. La voix de l'Indonésie présente des actualités, des informations et des divertissements divers sur l'Indonésie. Et c'est ici que vous pourrez accéder à nos émissions tous les jours sur SW3325 et 4755 kHz ou via le site web www.voinews.id et l'application RRI numérique. La voix de l'Indonésie au monde.
Bonsoir chers auditeurs, ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en française diffusée depuis Jakarta. Je m'appelle Tiwi et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, la mise au point de la semaine et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme des journaux. Aujourd'hui, on commence par le titre. Les États-Unis refêtent 75 ans de relations avec l'Indonésie à travers un concert d'orchestre. Le Qatar discute de la situation en Syrie et à Gaza avec la Turquie, l'Iran et la Jordanie. Le ministère de la Religion s'engage à améliorer le bien-être des enseignants. Afin de sensibiliser à la crise climatique, le festival Action Génération Climat a eu lieu. L'Agence nationale de population et de planification familiale affirme que la pleine inclusion des personnes handicapées peut créer une Indonésie inclusive. Bon, chers auditeurs, voici le journal en complet. L'ambassade des États-Unis à Jakarta a reflété 75 ans de relations bilatérales avec la République d'Indonésie en organisant un concert d'orchestre mettant en vedette des musiciens renommés des deux pays. Cité par Antara à Jakarta samedi, l'ambassadrice des États-Unis en Indonésie, Kamala Shirin Lahdir, lors de l'ouverture du gala 75 américano-indonésien, a déclaré que des relations personnelles solides constituent une base importante qui renforce la collaboration entre les deux pays. Elle a expliqué que l'importance des relations entre les deux pays a été réaffirmée lors de la visite du président Prabowo Subianto à la Maison-Blanche et de son entretien avec le président américain Joe Biden. Le reflet de bonnes relations à travers un spectacle d'orchestre a été choisi par l'ambassade des États-Unis car la musique est un langage universel qui devrait pouvoir approfondir les relations entre les deux pays. Le concert mettait en vedette un certain nombre d'artistes indonésiens qui ont étudié, pratiqué et joué aux États-Unis ainsi que des artistes américains en visite. Le ministre qatari des Affaires étrangères, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, a discuté samedi des derniers développements en Syrie et de la situation à Gaza et dans les territoires palestiniens occupés avec ses homologues de Turquie, de Jordanie et d'Iran. Cité par Antara à Jakarta, selon le ministère qatari des Affaires étrangères Al Thani, qui est également premier ministre, a eu des conversations téléphoniques avec le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan, le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi et le ministre jordanien des Affaires étrangères Ayman Safadi. Les discussions ont porté sur les relations bilatérales et les moyens d'améliorer la coopération, ainsi que sur les dernières informations sur la crise humanitaire à Gaza et dans les territoires palestiniens, ainsi que sur la situation en Syrie, qui a connu au cours de la semaine dernière des progrès spectaculaires de la part des forces opposées au régime Bachar al-Assad. Al Thani a exprimé la profonde préoccupation de son pays face à la situation en Syrie, en soulignant l'importance de protéger les civils de l'impact du conflit. Le ministre qatari des Affaires étrangères a réitéré la position ferme de son pays visant à donner la priorité au dialogue et à la compréhension entre toutes les parties pour résoudre la crise syrienne conformément aux résolutions internationales, notamment la résolution 2254 du Conseil de sécurité de l'ONU. La résolution 2254, adoptée en décembre 2015, appelait aux négociations pacifiques et à une solution politique au conflit en garantissant la souveraineté et l'indépendance de la Syrie. Le vice-ministre des cultes de la République d'Indonésie, le père Muhammad Shafi'i, a déclaré que le ministère des cultes s'est engagé à déployer des efforts pour améliorer le bien-être des enseignants, en particulier au milieu des défis auxquels de nombreux éducateurs sont encore confrontés. Cité par Antara à Jakarta samedi, lors d'une réunion avec le conseil d'administration d'Al-Jamiatul Washliyah, une organisation islamique de Sumatra du Nord au siège du ministère de la Religion, il a également souligné le rôle stratégique des enseignants en tant que fer de lance de l'éducation de la nation. À cette occasion, le vice-ministre des cultes a souligné que l'amélioration du bien-être des enseignants ne se limite pas seulement aux aspects financiers, mais inclut également les prestations de sécurité sociale, les installations et l'accès à la formation professionnelle. Il a également souligné l'engagement du ministère des cultes à travailler sur un système d'incitation plus équitable pour les enseignants honoraires. Le vice-ministre des cultes a assuré que dans les années à venir, il n'y aurait plus d'inégalité de protection sociale entre enseignants permanents et honoraires. Le gouvernement, en collaboration avec Save the Children Indonesia, organise un festival d'action Génération Climat qui vise à sensibiliser le public à la crise climatique qui a également un impact sur les enfants. Cité par Antara à Jakarta samedi, l'adjoint à la coordination pour l'amélioration des qualités des enfants, des femmes et des jeunes du ministère de coordination du développement humain et de la culture, Woro Srihastuti Sulistianingrum, au festival d'action Génération Climat, a déclaré que la crise climatique était également une crise des droits des enfants. Selon lui, la crise climatique impose aux enfants un double fardeau car les catastrophes, les maladies et la pollution de l'air ont un impact aux enfants. En outre, selon lui, les enfants sont également affectés par le fait que leurs droits ne sont pas respectés, comme le droit à l'éducation, le droit à la santé et l'utilisation du temps libre. À travers ce festival, les enfants sont invités à participer pour pouvoir s'exprimer et s'impliquer dans des actions visant à atténuer, surmonter et s'adapter au changement climatique. Le vice-ministre de la Population et du Développement familial, chef adjoint de l'Agence nationale de population et de planification familiale, ou un indonésien abrégé en BKKBN, Ratu Ayu Ishana Bagus Oka, a souligné l'importance d'impliquer pleinement les personnes handicapées pour créer une Indonésie plus inclusive. Cité par Antara à Jakarta samedi, il a déclaré que chaque personne a une vitesse différente pour atteindre ses objectifs de vie. Il a donc souligné l'importance d'inciter les personnes handicapées à collaborer pour éradiquer la stigmatisation liée au handicap. Il a également encouragé les personnes handicapées à continuer à faire preuve d'enthousiasme et à maximiser leur potentiel. Il a déclaré que le ministère de l'Intérieur est fier que le BKKBN et tenter de mener des activités incluant les amis handicapés, dont l'une par l'intermédiaire de l'ambassadeur du genre d'inclusion qui fonctionne depuis 2008 sous la direction de la résilience des jeunes. Selon lui, grâce à cet événement, tous les Indonésiens pourront voir les réalisations qui peuvent être réalisées par les personnes handicapées. C'est tout le journal d'aujourd'hui. Voici la mise au point de la semaine dont le titre est « Trois patrimoines culturels indonésiens ont été inscrits avec succès sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO ». Réok Ponorogo a été officiellement inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO de la catégorie « In Need of Asian Safeguarding » qui a eu lieu lors de la 19e session du comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel à Asunción, Paraguay. Et ce procès se tient du 2 au 7 décembre 2024. Le ministre de la Culture Fadlizon a déclaré que l'inscription de Réok Ponorogo comme patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente par l'UNESCO était un moment important pour l'Indonésie dans la préservation des arts et de la culture traditionnelle qui sont fermement enracinés dans les valeurs locales et l'esprit de solidarité mutuelle. Putri Reog Ponorogo, l'Indonésie, la Malaisie, le Brunei Darussalam, Singapour et la Thaïlande ont également réussi à inscrire Kebaya sur la liste. Le ministre Fadli Zone a déclaré que Kebaya était un patrimoine culturel qui était un symbole d'unité dans la région de l'Asie du Sud-Est. L'Indonésie a également réussi à inscrire Rolintang sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. La reconnaissance de Kolintang comprend 5 domaines importants du patrimoine culturel immatériel, à savoir tradition orale, art, de spectacle, pratique sociale et rituelle, connaissances écologiques et artisanat traditionnel. Kolintang a été proposé par l'Indonésie avec le Mali, au Burkina Faso et la Côte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest. Cette proposition commune a été faite car le Kolintang présente des similitudes avec le balafon, un instrument de musique des deux pays. Fadli Zon a déclaré que la collaboration de l'Indonésie avec ces trois pays était la preuve que la musique traditionnelle pouvait combler les différences géographiques et culturelles. L'observateur de tourisme Sari Lenggogeni a déclaré que les arts Reog, Kolintang et Kebaya avaient le potentiel de devenir des attractions touristiques de classe mondiale s'ils sont nommés patrimoine culturel par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Cité par Antara à Jakarta mercredi, Sari Lenggogeni a expliqué que les trois identités culturelles indonésiennes avaient l'essence de l'attraction touristique en offrant une expérience de voyage qui s'adressait aux aspects de la vue, de l'ouïe, de l'odorat, du goût et de l'activité. Sari a ajouté que le Reog, le Kolintang et le Kebaya n'étaient pas seulement des cultures héritées du passé, mais étaient également en lien avec les valeurs contemporaines afin qu'elles deviennent une identité culturelle durable. Il a également encouragé le développement de destinations touristiques dans les régions d'origine du Reog, du Kolintang et du Kebaya, notamment en mettant en valeur les icônes de ces trois arts. Voilà la mise au point de la semaine. Voici l'histoire d'aujourd'hui, le 8 décembre. On commence par le 8 décembre 1980, le décès de John Lennon. John Winston Lennon était un chanteur, auteur-compositeur, instrumentiste, écrivain et activiste politique, surtout connu dans le monde entier en tant que leader des Beatles. Après la dissolution des Beatles en 1970, on connaît également du succès dans sa carrière solo. L'un de ses tubes encore très célèbre aujourd'hui est Imagine, une chanson qui deviendra plus tard un hymne à la paix dans le monde. Il est décédé à New York à l'âge de 40 ans, abattu par un fan fou, Mark Chapman, devant son appartement de Dakota dans l'ouest de Manhattan à 22h50 heure locale. John Lennon a été déclaré mort à l'hôpital 25 minutes plus tard. Le tireur était un fan qui venait de recevoir l'autographe de la star quelques heures plus tôt, Mark David Chapman. Il a été reconnu coupable du meurtre de Lennon en 1981. Le 8 décembre 1991, la dissolution de l'Union soviétique. Le 8 décembre 1991, la Russie, l'Ukraine et la Biélorussie ont signé la charte de Belaïeva qui marquait la dissolution de l'Union et son remplacement par la Communauté des États indépendants. Alors qu'il y avait beaucoup de débats sur qui avait le droit de dissoudre l'Union soviétique, Gorbatchev a démissionné de son poste de président de l'Union soviétique le 25 décembre 1991 et a cédé ses pouvoirs à Boris Yeltsin. Finalement, l'Assemblée suprême de l'Union soviétique s'est dissoute le 26 décembre 1991, ce qui a également marqué la dissolution de l'Union soviétique en tant que fédération, 4 jours seulement avant son 69e anniversaire. Le 8 décembre 2019, l'incident à la bombe à Bagdad. Le 8 décembre 2009, une attaque a eu lieu à Bagdad, en Irak, qui a entraîné la mort d'au moins 127 personnes et en a blessé au moins 448 autres. L'attaque s'est produite dans la matinée, vers 10h30. Les résidents locaux ont signalé une explosion juste après 10h, qui a été suivie environ une demi-heure plus tard par 4 autres à la suite. En début d'après-midi, les autorités avaient signalé 5 explosions dans la zone. Au moins 4 attaques auraient été coordonnées. Ces attaques ont été condamnées au niveau international comme des actes de terrorisme. Les partis d'opposition ont déclaré que le premier ministre irakien, Nouri al-Maliki, était incompétent dans la gestion de l'incident. L'État islamique a revendiqué la responsabilité de l'attaque. Voilà l'histoire d'aujourd'hui.
won my heart.
Voilà la chanson de pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sous la fréquence de 3325 kHz et 4755 kHz. Et voici mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Les auditeurs de Voice of Indonesia, mon Indonésie d'aujourd'hui est intitulé « Le président fait pression pour la certification des produits destinés à être utilisés lors des championnats du monde ». Un nombre croissant d'athlètes indonésiens participent aux championnats régionaux ou mondiaux. L'utilisation des produits fabriqués en Indonésie par les athlètes en compétition constitue l'objectif du gouvernement d'accroître la compétitivité et les ventes ainsi que d'introduire des produits indonésiens. À ce propos, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Dito Aryo Tejo, a déclaré que le président Prabowo Subianto encourager la certification des produits locaux afin que ces produits puissent être utilisés dans les championnats du monde. La certification des produits locaux que nous pourrons ensuite accompagner dans la diplomatie peut être obtenue au moyen de certificats afin qu'ils soient conformes à la Fédération internationale, a déclaré le ministre de la Jeunesse et des Sports, Dito Aryo Tejo, lors d'une déclaration à la presse à l'issue d'une réunion ministérielle sur le niveau national, sur le grand désigne sportif national ou DBON au ministère de la Jeunesse et des Sports, Jakarta, mercredi. Lors de la réunion ministérielle concernant le DBON, présidée par le vice-président Gibran Rakabuming Raka, le ministre Dito Aryo Tejo a déclaré que le vice-président en tant que président du DBON encourageait l'industrie du sport, de la fabrication au tourisme. Le ministre Dito a déclaré qu'en plus d'offrir des incitations aux clubs sportifs, le président Prabowo souhaite que les produits manufacturés indonésiens soient utilisés dans les championnats du monde, tels que les Jeux asiatiques, la Coupe du monde et les Jeux olympiques. Le souhait du président dans le domaine sportif a également souligné que l'un des sports typiques de l'Indonésie, à savoir le pencaksilat, pourrait être reconnu par le Comité international olympique. Cela a été prouvé par la tenue du championnat de pencaksilat aux Pays-Bas du 21 au 23 novembre et à Abu Dhabi du 18 au 22 décembre, à savoir le 5e championnat mondial junior de pencaksilat d'Abu Dhabi ATNEC auquel ont participé 79 pays, y compris l'Indonésie. Dans la deuxième phase du DBON, le ministère de la Jeunesse et des Sports ajustera les objectifs du programme de travail ou ASTACITA dans le secteur du sport initié par le président Prabowo Subianto et le vice-président Gibran Rakabuming Raka. Basé sur les informations recueillies, ASTACITA du secteur sportif a déclaré au septième point que Prabowo Gibran a promis d'augmenter son soutien sous forme d'infrastructures et de financement dans le monde du sport afin d'améliorer les réalisations du contingent indonésien dans des événements prestigieux tels que comme les Jeux asiatiques, les Jeux olympiques et la Coupe du monde. Voilà mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Meskipun ku tak mau kau dekati diriku, namun saat aku buka pintu di hatiku, tiada lagi dirimu, kau menjauh dariku. Mengapa kini kau harus pergi di saat ku telah jatuh hati? Bernyawa.
Haruskah salahkan waktu atas segalanya? Mengapa,
mengapa
dia tak berpihak pada cinta kita? Oh, hingga kemarauku bersemi, izinkan aku menanti kau buka pintu hatimu kembali. Oh, sayangku tak bisa dibuatmu kecewa. Kau buatku mati rasa meski ku
La Voix de l'Indonésie, la diffusion à l'étranger de Radio République Indonésia, présente des émissions dans nos services linguistiques anglais, français, allemand, néerlandais, espagnol, arabe, mandarin, japonais et indonésien. Cette émission radiophonique est diffusée via SW 3325 kHz et 4755 kHz et en streaming sur www.voinews.id et RRI numérique. Nous vous présentons divers programmes Charme de l'Indonésie, l'Indonésie en couleur, parlons indonésien, divertissement de musique pop indonésienne, régionale et la chanson au rythme croncheong, ainsi que des actualités et des informations sur l'Indonésie et l'étranger. La voix de l'Indonésie au monde.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson de pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4755 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Chers auditeurs, la colline de Jamur Bengkayang est située au village de Belangko, région de Bengkayang, Kalimantan de l'Ouest. La colline de Jamur Bengkayang, qui se trouve à une altitude de 500 mètres au-dessus du niveau de la mer, est une destination touristique pour profiter de la beauté d'Angno et rendre le paysage en contrebas magnifique, car ici, nous sommes comme être dans un pays au-dessus des nuages. En vue d'être connu sous le nom de la colline de Jamur Bengkayang, la population locale l'appelle également Gunung Batu ou Mahameru Kalimantan de l'Ouest. La distance entre la colline de Jamur Bengkayang et Pontianak, qui est la capitale du Kalimantan occidental, est d'environ 164 km. Même si son nom est la colline Jamur ou colline des champignons, en réalité, il n'y a pas de champignons du tout sur cette colline, car les champignons ne poussent plus. La croissance de ces champignons se produit après un incendie. Une fois l'incendie éteint, les champignons ont commencé à pousser un par un jusqu'à ce que les habitants locaux baptisent finalement la colline de Jamur. Mais il y a aussi ceux qui disent que le nom de la colline Jamur lui-même vit de la langue locale qui signifie Jamur ou le soleil séchant. Ce n'est donc pas un champignon au sein d'une plante, mais on l'appelle un champignon car dans les temps anciens, les populations locales utilisent cette zone comme endroit pour sécher leurs récoltes. L'attrait de cette destination touristique réside dans la beauté des paysages naturels. Du haut de la colline, les visiteurs peuvent voir la beauté des vastes étendues de collines verdoyantes, des étendues de rizières vertes, des villages traditionnels et des chaînes de montagnes au loin. La vue est encore plus époustouflante au matin lorsqu'une fine brume recouvre la zone. Bukit Jamur Bengkayang ou la colline aux champignons de Bengkayang offre non seulement une beauté naturelle, mais aussi une richesse de culture locale encore préservée. Les visiteurs peuvent interagir avec la population locale, découvrir leurs coutumes et traditions et goûter les délicieuses spécialités culinaires de Bengkayang. Ici, la convivialité et la chaleur des gens donneront aux visiteurs le sentiment d'être chez eux. Au sommet, le visiteur doit d'abord faire des activités de randonnée. Cette colline n'est pas très haute, mais ceux qui ne l'ont jamais gravie, ils se sentiront fatigués. En approchant de la colline, il y a une piste assez raide. Il faut de la force physique et mentale pour traverser des terrains difficiles. Mais après avoir arrivé, votre fatigue disparaîtra instantanément lorsque vous regarderez le paysage naturel enchanteur en profitant de la sensation d'une terre au-dessous des nuages. Les visiteurs doivent veiller à ne pas porter de mauvaises chaussures afin de ne pas glisser. Il est également recommandé de visiter la colline aux champignons de Bengkayang par beau temps car elle offrira des photos intéressantes et des vues sur l'océan au-dessus des nuages. Nous terminons le magazine culturel cette fois-ci. Nous nous retrouverons avec un autre sujet intéressant. Voilà la voix de l'Indonésie à Jakarta. Dia
lupa. Padahal kau tahu keadaannya, kau bukanlah untukku. Jangan lagi rindu cinta, ku tak mau ada yang terluka. Bahagiakan dia,
bahagiakan dia.
Biar aku yang pura-pura lupa. Biar aku yang pura-pura lupa.
Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Bonjour à notre ami d'Algérie, Abdelkader Khalil. Merci beaucoup pour vos chaleureuses félicitations. Je vous apprécie vraiment. Et nous espérons également pour que vous soyez toujours en bonne santé, heureux et prospère. Merci à vous qui nous ont toujours écoutés et restez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. La suite, écoutons la rubrique suivante, l'Indonésie en couleur.
Les auditeurs de Voice of Indonesia, voici l'Indonésie en couleur, dont le titre est « Kebaya devient le patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO ». L'UNESCO a officiellement créé « Kebaya, connaissances, compétences, traditions et pratiques » dans le cadre de la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Cette décision a été annoncée lors de la 19e session du comité intergouvernemental du patrimoine culturel immatériel qui s'est tenue à Asunción, Paraguay, le 4 décembre 2024. Dans son message virtuel, le ministre indonésien de la Culture, Fadlizon, a déclaré que la candidature à la Kebaya avait été soumise conjointement par le Brunei Darussalam, l'Indonésie, la Malaisie, Singapour et la Thaïlande. Selon lui, cet effort conjoint de soumission montre l'esprit de coopération et d'unité des pays d'Asie du Sud-Est dans la préservation de leur patrimoine culturel commun. Le ministre de la Culture, Fadlizon, a également déclaré que Kebaya n'est pas seulement un vêtement traditionnel, mais qu'elle est également un symbole de l'identité culturelle de l'Asie du Sud-Est. Actuellement, le kebaya est également apparu et exposé avec des dessins contemporains lors d'événements tels que des concours de beauté et des cérémonies de remise de prix, ce qui reflète bien sûr la culture unique de celui qui le porte. En faisant partie de la liste représentative de l'UNESCO, kebaya renforce le dialogue interculturel, promeut la paix et encourage le respect de la diversité culturelle. Dans cette candidature, les pays candidats ont également souligné le rôle de kebaya dans le soutien au développement durable. Le ministre de la Culture espère que cette détermination pourra contribuer au bien-être du peuple, au développement économique inclusif et à la réduction de la pauvreté. Kebaya est un vêtement traditionnel largement connu dans diverses régions d'Indonésie, comme Java, Bali, Sumatra et Sulawesi. Habituellement, kebaya a un dessin distinctif sous la forme d'un nœud à manches longues en matériau transparent décoré de broderies. Ces vêtements sont généralement combinés avec du batik, du songket ou du tissu tissé traditionnel. Kebaya reflète non seulement la beauté et l'élégance, mais représente également l'identité culturelle et les valeurs nobles, telles que la simplicité, la modestie et l'élégance des femmes indonésiennes. Lors de diverses cérémonies traditionnelles, mariages ou événements officiels, kebaya est souvent la choix principale.
Thank you.
Bintik semesta ku hembuskan lara menjemput tenang seribu asa kau suarakan menyantap raduga tentang yang tenang ku hanya ingin terus bertanya mengapa sehingga dalam mimpi memutar kembali lini hatiku ku hanya ingin tenang
Chers auditeurs, voilà la chanson de pop indonésienne. Et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Voice of Indonesia.
Bonsoir les auditeurs de Voice of Indonesia. Cette fois-ci, je parle d'une chanson de Raisa Anggiani. Raisa Anggiani, née à Jakarta le 21 février 2004, est une chanteuse et compositrice indonésienne. Même si elle n'a que 20 ans, elle a remporté de nombreux prix prestigieux. L'une de ses réalisations a été lorsqu'elle est devenue ambassadeur de la campagne mondiale Equal de Spotify et que sa photo a été affichée à New York Times Square aux États-Unis. De plus, les chansons de Raisa Anggiani sont souvent incluses dans les Indonesian Music Awards et sont devenues les bandes originales de plusieurs films célèbres. Cette fois, elle a sorti sa nouvelle chanson intitulée « Lagu Cinta Untuk Mama » qui sera également la bande originale du film du même titre. Comme le titre l'indique, « Lagu Cinta Untuk Mama » ou la chanson d'amour pour maman est l'expression de l'amour d'un enfant pour sa mère. Les paroles de la chanson contiennent des éloges pour l'amour et l'affection de la mère qui ne pourront jamais être remplacées par n'importe quoi. L'amour extraordinaire d'une mère est toujours infatigable en prenant soin de son petit et en lui offrant des prières pour le bien et le bonheur. Lagu Cinta Untuk Mama a été composée par le célèbre compositeur et maestro Andy Rianto avec Raisa Anggiani elle-même. En l'écrivant, a également contribué Peter Taslim, le frère aîné du célèbre acteur Joe Taslim, qui est également le producteur exécutif du film Lagu Cinta Untuk Mama. Bon, chers auditeurs, voici Lagu Cinta Untuk Mama de Raisa Anggiani. Bonne écoute!
Voice of Indonesia.
Beradu mata dan mulai bicara tentang bintang pijar sah yang menyala.
Benarkah ini yang kau ingin? Pura-pura sempurna kelabui celah demi aman-nyamanmu tersiar.
Oh, hasil lemah buatlah semesta menerima dirimu apa adanya. Relakanlah masih banyak senyum di dunia yang bisa terima semua indah kurangmu. Bila engkau berbeda, jangan kau benci dirimu.
Habis daya bangun imaji, hingga bohongmu tak lagi berbohong lagi. Yang kau tipu dirimu sendiri.
Hai si lemah, buatlah semesta menerima dirimu apa adanya.
Apapun yang kau widap atau menghantui,
bukan halanganmu untuk kalahkan hari.
Kamu berarti,
kamu berarti.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. Au revoir.